VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. La justice sud-africaine a fixé aujourd'hui au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Dans cette affaire, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché pour 260 000 euros au cours actuel de pots de vin de Thalès, une entreprise d'armes, lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, Jacob Zuma était ministre provincial puis vice-président de l'Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 23 décembre a démarré il y a une semaine. Elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais en territoire de Béni, dans le nord Kivu, l'épidémie de fièvre Ebola a fait près de 242 morts. Les attaques et enlèvements des rebelles ADF ont fait plus de victimes. Comment se déroule la campagne à Béni? Idriss Fall a joint sur place notre confrère Nikes Kibel-Biloka, le directeur du journal Les Coulisses.
Ces deux préoccupations qui se sont invitées à la campagne sont toujours là, mais il faut dire que la campagne a démarré effectivement, au moins au niveau des grandes agglomérations. On assiste à des caravanes motorisées, des véhicules avec musique et des chansons qui résonnent pour tel ou tel candidat. Le RCDKML a ouvert sa matinée politique pour annoncer sa campagne il y a deux jours. Il y a des affiches partout sur des murs. Disons que la campagne a démarré. En attendant ces deux inconnus que vous avez cités, Ebola et l'insécurité des ADF.
Comment est-ce qu'elle se déroule? Est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Parce que Ebola, quand même, ne va pas toujours avec des rassemblements.
Concernant Ebola, le grand principe est qu'on ne se salue pas les mains, qu'on ne se touche pas. Et les gens sont dans la rue, ils s'y habituent. Donc la campagne se fait sans que les gens s'embrassent, sans que les gens se touchent. Il y a des caravanes, comme je l'ai dit, de la musique, des affiches. Mais il faut dire que la campagne n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Peut-être dans les jours qui viennent, mais ça sera plus déterminant. Parce que vous savez, chez nous, on attend toujours les derniers jours. On observe en même temps les consignes sur la prévention pour Ebola. Au même moment aussi, il y a la campagne. Mais les gens ne s'embrassent pas, ne se saluent pas par la main. Il y a une salutation gestuelle ici qui se passe. On se donne du coup.
Est-ce que les candidats à l'élection présidentielle comme Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi ou Emmanuel Ramazani Shadary, est-ce qu'ils ont prévu de venir à Béni?
Sur le papier, c'est prévu, ils viendront à Béni. Mais par exemple, pour Shadary, il a des équipes, pour tout le monde, ils ont des équipes, des campagnes qu'ils ont un peu, si vous acceptez le terme, saucissonnées. Et pour Emmanuel Shadary, dans chaque province, le gouverneur est là pour le représenter en attendant qu'il arrive. Par exemple, pour Fayoulou, au niveau de Béni, c'est le RCDKML qui a lancé la campagne, la caravane, la matinée politique annonçant aussi le soutien à Martin Fayoulou. Et l'UDPS, on attend encore parce que vous savez, l'accord a été signé il n'y a pas longtemps. Disons que sur le papier, tous ces candidats viendront. Le Grand Nord Kivu, donc Beni Lubero, c'est presque les 1/10 des électeurs. Je pense qu'ils viendront, mais jusque-là, on n'a pas encore donné de date fixe.
Est-ce que vous pensez qu'avec les rebelles ADF et la présence d'Ebola, les élections vont pouvoir se tenir normalement?
Je ne peux pas être prophète de malheur, nous allons observer nous tous jusqu'à quel niveau on peut organiser les élections. Par exemple, pour la ville et les territoires de Béni, notamment pour la ville de Béni, il y a pratiquement 30% de la population qui s'est déplacée, qui s'est délocalisée, soit pour Goma, soit pour l'Ouganda, soit pour Kinshasa. Il faudra attendre, je ne voudrais pas être le prophète de malheur.
Notre confrère Nikes Kibel-Biloka, directeur du journal Les Coulisses, a béni. Plusieurs centaines d'opposants guinéens qui voulaient manifester à Conakry contre les conditions d'installation des conseils municipaux issus d'élections contestées ont été dispersés jeudi par les forces de l'ordre. Les jeunes manifestants, estimés à quelques centaines par les journalistes, un millier par les organisateurs, entendaient défiler du grand stade de Conakry au palais du peuple, le siège de l'Assemblée nationale. Disséminés, ils ont soudain tenté de rejoindre leur leader qui sortait du domicile du chef de l'opposition, Selou Dalein Diallo, lui-même actuellement à l'étranger. Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le premier ministre du Cameroun, ont demandé à l'issue d'une réunion à N'Djamena le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. Bagasikura.
Le président Mahamadou Bouhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby du Tchad et le premier ministre camerounais Philemon Yang sollicitent le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de la région du lac Tchad. À l'issue de leur rencontre à huis clos à N'Djamena, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques et affirment vouloir changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Ils promettent de multiplier ce type de rencontres et se sont entretenus avec de hauts gradés de la force multinationale mixte qui surveille la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés de citoyens locaux. Hier, un officier nigérien a déclaré qu'une base militaire proche du lac Tchad a été attaquée mardi par Boko Haram et que les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes. À la mi-novembre, la branche qui fait allégeance au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats au Nigeria. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées mercredi dans un attentat suicide à Amchide, dans l'extrême nord, près de la frontière nigériane.
Après une année blanche, le Festival international du film de Marrakech, FIFEM, s'ouvre ce vendredi sous le signe des étoiles avec la présence annoncée de grands noms comme Martin Scorsese, Robert De Niro, Agnès Varda, Robin Wright ou Guillermo del Toro. Très cosmopolite, le jury du festival sera présidé par le réalisateur américain James Gray. Ils devront départager les 14 films en compétition officielle avec 13 pays en lice pour l'étoile d'or du festival.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Direct de nos studios à Washington, Jean-Roger Villon à ce micro. Ouverture ce vendredi à Buenos Aires du sommet du G20, l'organisation regroupant les 20 pays les plus riches du monde. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tensions politiques et commerciales, alors que l'organisation est le symbole même du libéralisme économique.
Le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping vont se rencontrer en marge du sommet de 2 jours dans la capitale argentine. Au menu de leur discussion, les tensions commerciales entre Washington et Pékin, quelques jours après que l'administration américaine a annoncé qu'elle allait mettre à exécution sa menace d'ajouter de nouvelles taxes de 200 milliards de dollars sur des produits chinois. Les deux parties espèrent un dégel dans le conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs mois avec des hausses de tarifs de part et d'autre. Les États-Unis ont aussi imposé des taxes additionnelles sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe. Cette question devrait donc être abordée, mais le président Trump a déjà dénoncé à plusieurs reprises les pratiques commerciales des autres pays jugées défavorables aux États-Unis. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine sera au centre des préoccupations. Le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant la saisie de navires ukrainiens par la Russie.
Et l'Ukraine a limité l'accès à son territoire des hommes russes âgés de 16 à 60 ans, a annoncé aujourd'hui le chef du service ukrainien des gardes frontières, sur fond de flambée de tensions, vous l'avez dit, Abdourahmane Dia, avec la Russie. Le président ukrainien Petro Poroshenko a précisé que cette limitation s'appliquerait sauf pour des raisons humanitaires explicitement spécifiées dans les instructions. Les tensions avec Moscou sont très vives en Ukraine depuis l'arraisonnement dimanche au large de la Crimée par les gardes-côtes russes de 3 bateaux militaires ukrainiens à la suite duquel M. Poroshenko a mis en garde contre la menace d'une guerre totale avec la Russie. Les rebelles houthis au Yémen vont participer aux prochaines consultations de paix en Suède sous l'égide de l'ONU si les garanties pour leur départ et retour en sécurité au pays sont maintenues, a déclaré jeudi l'un de leurs responsables. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, cherche à réunir le pouvoir et les rebelles en Suède en vue de tenter de trouver un règlement politique au conflit qui ravage ce pays pauvre de la péninsule arabique depuis près de 4 ans. L'ONU n'a fixé aucune date pour ces consultations, mais les États-Unis ont affirmé qu'elles auraient lieu début décembre et des diplomates onusiens ont estimé qu'elles pourraient débuter dès le 3 décembre. Au moins 23 civils, surtout des femmes et des enfants, ont été tués mardi lors d'un bombardement de l'armée américaine au cours d'une opération anti-taliban dans la province de Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, a révélé l'ONU. Trois autres civils ont été également blessés. Les forces militaires internationales ont mené une frappe aérienne après des affrontements sur le terrain avec les talibans, a fait savoir la mission onusienne en Afghanistan, la MANOA, dans un rapport reçu par l'AFP dans la nuit de jeudi à vendredi. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous aurez au micro Henri Francisca. Bon après-midi et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.